Chapitre 10. On examine les autres livres de l'Ancien Testament, comme on a fait précédemment les 12 premiers. Je passe à l'examen des autres livres de l'Ancien Testament. Je n'ai rien à dire de certain ni d'important touchant les deux livres des Paralipomènes, sinon qu'ils ont été écrits longtemps après Esdras, et peut-être même depuis la restauration du Temple par Judas Maccabée. L'histoire nous y donne en effet, livre 1 chapitre 9, le dénombrement des familles qui les premières, c'est-à-dire dès le temps d'Esdras, habitèrent Jérusalem. Ajoutez à cela qu'au verset 17, il nous désigne par leur nom les gardiens des portes. Remarquez que deux de ces noms se retrouvent dans Néhémias, chapitre 11, verset 19, ce qui prouve que ces livres ont été écrits longtemps après la reconstruction de Jérusalem. Du reste, je n'ai rien à dire de certains touchant le véritable auteur des Paralipomènes, ni sur l'utilité ou l'autorité qu'il leur faut reconnaître, ni enfin sur la doctrine qui y est contenue. Et je ne puis assez m'étonner qu'ils aient été mis au nombre des livres saints par ceux-là même qui n'ont pas voulu y comprendre le livre de la sagesse, celui de Tobie, et tous ceux qu'on appelle apocryphes. Du reste, mon dessein n'est pas du tout de défendre ici l'autorité des paralipomènes, mais puisqu'on s'est accordé à les recevoir parmi les livres saints, je n'y veux pas contredire et je passe outre. Les psaumes ont également été réunis en corps d'ouvrage et divisés en 5 livres à l'époque du Second Temple. Car le psaume 88, au témoignage de Philon le Juif, fut mis au jour pendant la prison du roi Jéhojakim à Babylone, et le psaume 89, après sa délivrance. Or, je ne pense pas que Philon ait attesté ce fait s'il ne le recueillit de personnes dignes de foi ou empruntées à l'opinion générale de son temps. Je crois aussi que les proverbes de Salomon ont été recueillis vers cette même époque, ou tout au moins sous le règne de Josias. Je trouve en effet, au dernier verset du chapitre 24, ces paroles « Voici encore des proverbes qui sont de Salomon. Ils ont été transportés dans ce recueil par les serviteurs d'Ischias, roi de Juda. Il m'est impossible de ne pas m'élever ici contre l'audace des rabbins qui voulaient retrancher ce livre, ainsi que l'Ecclésiaste, du canon des Saintes Écritures, pour le mettre à part avec les autres livres dont nous avons déjà regretté l'exclusion. Et ils n'eussent pas manqué de le faire s'ils n'avaient trouvé dans les Proverbes et l'Ecclésiaste quelques endroits où la loi de Moïse est mise en honneur. C'est une chose assurément déplorable que le sort d'ouvrages aussi excellents, aussi sacrés, ait pu dépendre de la décision de pareils juges. Je leur dois cependant des actions de grâce pour avoir bien voulu nous les conserver. L'ont-ils fait avec une fidélité scrupuleuse et sans les altérer d'aucune façon? C'est ce que je ne veux point examiner de près en ce moment. Je passe au livre des prophètes. Si on les examine attentivement, on reconnaîtra que les prophéties qu'ils contiennent ont été recueillies dans d'autres livres, qu'elles ne sont point toujours disposées dans le même ordre où elles ont été prononcées ou écrites, enfin, que ce ne sont point là toutes les prophéties, mais seulement celles qu'on a retrouvées de côté et d'autre. D'où il suit que ces livres ne sont véritablement que des fragments des prophètes. Ainsi, Isaïe n'y commence à prophétiser que sous le règne d'Uzias, comme le collecteur le témoigne lui-même au premier verset. Or, il est certain qu'Isaïe prophétisa avant cette époque et que, dans un livre aujourd'hui perdu, il avait tracé l'histoire entière du roi Uzias. Voyez Paralipomène, livre 2, chapitre 26, verset 22. Les prophéties que nous avons d'Isaïe ont été tirées des chroniques des rois de Juda et d'Israël, ainsi que nous l'avons prouvé plus haut. Ajoutez à cela que les rabbins font vivre ce prophète jusqu'au règne de Manassé, qui ordonna de le mettre à mort. Et bien que ce récit paraisse n'être qu'une fable, on en veut cependant induire que les rabbins n'ignoraient pas que toutes les prophéties d'Isaïe n'ont pas été conservées. Les prophéties de Jérémie, qui sont présentées sous forme historique, ont également été tirées de diverses chroniques et rassemblées par un collecteur. J'en trouve une preuve dans la confusion qui règne parmi cette accumulation de prophéties, où l'ordre des temps n'est point observé. Ajoutez que le même récit est souvent répété de plusieurs manières différentes. Ainsi, le chapitre 21 nous explique la cause des appréhensions de Jérémie. Elles viennent de ce qu'il a prédit à Zédéchias qui le consultait, la dévastation de Jérusalem. Tout à coup, ce récit est interrompu, et le chapitre 22 nous raconte les remontrances de Jérémie adressées à Jéhojakim, qui régnait avant Zédéchias, et la prédilection qu'il lui fit d'une prochaine captivité. Puis au chapitre 25, viennent les révélations qui ont été faites à Jérémie avant cette époque, savoir la quatrième année du règne de Jéhojakim. Puis enfin, d'autres révélations que le prophète a reçues 4 années auparavant. Le collecteur du livre de Jérémie continue ainsi d'entasser les prophéties sans garder l'ordre des temps, jusqu'à ce que, parvenu au chapitre 38, il reprend le récit qu'il avait commencé au chapitre 21, comme si les chapitres intermédiaires étaient une simple parenthèse. En effet, la conjonction par où commence le chapitre 38 se rapporte aux versets 8, 9 et 10 du chapitre 21. De plus, Dans le récit du chapitre 38, la tristesse du prophète Jérémie et la cause de sa longue détention dans le vestibule de la prison sont racontées tout autrement que dans le chapitre 37, ce qui montre clairement que tout cela n'est qu'une collection de matériaux empruntés à divers historiens, sans quoi un pareil désordre serait véritablement inexplicable. Quant au reste des prophéties contenues dans les autres chapitres, où Jérémie parle à la première personne, il y a toute apparence qu'elles ont été tirées du livre que Jérémie dicta à Baruch, lequel ne contenait, ainsi qu'on le voit par le chapitre 36, verset 2, que les révélations faites à Jérémie depuis Josias jusqu'à la quatrième année du règne de Jéhoiakim. Il paraissait aussi qu'on aurait extrait de ce même livre dicté à Baruch tout ce qu'il est compris entre le chapitre 45, verset 2, jusqu'au chapitre 51, verset 59. Il suffit de lire les premiers versets du livret d'Ézéchiel pour se convaincre que ce livre n'est qu'un fragment, qui ne voit en effet que la conjonction par où il commence suppose un discours antérieur qu'elle unit à ce qui va suivre. Et non seulement cette conjonction, mais toute la contexture de l'ouvrage marque d'autres écrits que nous n'avons plus. Ce livre commence à l'an 30, ce qui prouve clairement que le prophète continue un récit déjà commencé, et l'auteur même du livre confirme cette induction par une parenthèse qu'il a placée au verset 3. « La parole de Dieu, dit-il, s'était souvent fait entendre à Ézéchiel, fils de Buzé, prêtre dans le pays des Chaldéens. » C'est comme s'il disait expressément que les prophéties d'Ézéchiel, dont il va faire le récit, sont une suite de révélations antérieures qu'Ézéchiel avait reçues de Dieu. Une autre preuve, c'est que Joseph, dans ses Antiquités, livre 10, chapitre 9, nous rapporte qu'Ézéchiel prédit à Zédékias qu'il ne verrait pas Babylone. Or, nous ne trouvons pas cette prophétie dans le livre d'Ézéchiel que nous avons aujourd'hui. Tout au contraire, nous y voyons, au chapitre 17, que Zédékias sera conduit en captivité à Babylone. Pour oser, je ne puis affirmer qu'il ait écrit un plus grand nombre de prophéties que nous n'en avons dans le livre qui porte son nom. Et toutefois, il y a lieu d'être surpris qu'il nous reste si peu de choses d'un prophète qui, au témoignage de l'écrivain sacré, a prophétisé pendant plus de 84 ans. Nous savons du moins en général que les Écritures ne contiennent ni tous les prophètes ni toutes les prophéties de ceux qui n'ont pas entièrement péri. Ainsi, nous n'avons absolument rien de tous les prophètes qui ont prophétisé sous le règne de Manassé et dont il est fait mention dans le livre 2 des Paralipomènes, chapitre 33, versets 10, 18 et 19. Et quant aux 12 petits prophètes, nous sommes loin de posséder toutes leurs prophéties. Il me suffira de citer Jonas, dont nous n'avons que la prophétie qu'il adressa aux Ninivites. Or, nous savons qu'il prophétisa aussi aux Israélites, comme on le voit par le second livre des Rois, chapitre 14, verset 25. Le livre de Job et Job lui-même ont fait l'objet d'un grand nombre de controverses. Quelques-uns pensent que Moïse est l'auteur de ce livre et que l'histoire de Job tout entière n'est qu'une parabole. C'est l'opinion de certains rabbins dans le Talmud, et Maïmonide, dans son livre « Mors Nebukim », y incline fortement. D'autres admettent que l'histoire de Job est véritable. Et parmi ceux-là, quelques-uns pensent que Job a vécu du temps de Jacob et qu'il a même pris en mariage sa fille Dina. Mais Aben Ezra est fort éloigné de ce sentiment, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il est d'avis, voyez son commentaire, que le livre de Job ait eu une traduction. Et quant à moi, je voudrais bien qu'il en fût ainsi. Car il en serait d'autant plus évident que les gentils ont eu aussi des livres saints. Mais il est plus sage de tenir la chose pour douteuse, et je me borne à penser comme simple conjecture que Job était un gentil d'une grande force d'âme qui passa d'une fortune prospère à des destinées malheureuses pour revenir ensuite à sa première condition de prospérité. Ézéchiel, en effet, chapitre 14, verset 12, le cite entre quelques autres personnages, et je suis porté à croire que ces alternatives de la destinée de Job et la force d'âme qu'il a déployée donnèrent occasion à plusieurs de discuter sur la providence de Dieu, ou du moins, elles déterminèrent l'auteur du livre de Job à composer un dialogue sur cette matière. Car ni le fond de cette composition, ni le style, ne portent le caractère d'un auteur accablé par la maladie et couvert de cendres. Elles transfèrent au contraire le travail et le loisir du cabinet. Sous ce point de vue, j'incline à l'opinion d'Aben Ezra que le livre de Job est une traduction. L'auteur, en effet, paraît imiter la poésie des gentils, car le Père des dieux y convoque deux fois l'assemblée où Momus, sous le nom de Satan, critique les actions de Dieu avec une extrême liberté, etc. Mais ce ne sont là, je l'avoue, que de simples conjectures, et elles ne sont point assez fondées pour qu'on y insiste. Passons au livre de Daniel. Il n'y a aucun doute qu'à partir du chapitre 8, ce livre ne soit l'ouvrage du prophète dont il porte le nom. Mais d'où a-t-on tiré les 7 premiers chapitres? Voilà ce qu'il est facile de dire. Il y a toute apparence que ça a été des chronologies chaldéennes, tous ces chapitres, excepté le premier, ayant été écrits en chaldéen. Si ce point était une fois bien établi, nous y trouverions un excellent témoignage de la vérité de ce principe, que la Bible ne doit pas son caractère de livre saint aux paroles et aux discours qu'elle contient, ou à la langue où elle est écrite, mais aux choses mêmes que l'intelligence y découvre. Et par conséquent, tous les livres qui contiennent des récits et des renseignements d'une moralité excellente, en quelque langue qu'ils soient écrits, chez quelque nation qu'on les rencontre, sont également sacrés. Quoi qu'il en soit, nous pouvons toujours noter ici que les 7 premiers chapitres de Daniel ont été écrits en chaldéen et qu'ils n'en sont pas réputés moins sacrés que tout le reste de la Bible. Le premier livre d'Ezra est si étroitement lié à celui de Daniel qu'il est aisé d'y reconnaître l'ouvrage d'un seul et même auteur qui continue dans un dernier livre à exposer l'histoire des Juifs depuis leur première captivité. Pour le livre d'Esther, je n'hésite pas à le rattacher à celui d'Ezra, la conjonction par où il commence ne pouvant s'interpréter dans un autre sens. Et il ne faut pas croire que ce livre d'Esther soit celui que Mardochée a écrit, puisque chapitre 9, versets 20, 21, 22, un autre que Mardochée parle de Mardochée lui-même, des lettres qu'il a écrites et de ce qu'elles contenaient. De plus, il est dit au verset 31 du même chapitre que la reine Esther avait confirmé par un édit toutes les sûretés relatives à la célébration de la fête des sorts, Pourim, et qu'on avait écrit cet édit dans le livre, c'est-à-dire, en langage hébraïque, dans un livre parfaitement connu de tous à cette époque. Or, il faut bien avouer ici, comme le fait Aben Ezra, que ce livre a péri avec les autres. Enfin, le reste de l'histoire de Mardochée est emprunté aux chroniques des rois de Perse. C'est donc une chose certaine que le livre d'Esther est l'ouvrage du même historien qui a écrit le livre de Daniel, celui d'Esdras, et sans doute aussi celui de Néhémias, qu'on appelle le second livre d'Esdras. Maintenant qu'il est établi que les 4 livres de Daniel, d'Esdras, d'Esther et de Néhémias sont du même auteur, on me demandera quel est cet auteur. J'avoue franchement que je n'en sais rien, et je n'ai même à proposer sur ce point aucune conjecture. Mais dira-t-on, de quelle source l'auteur, quel qu'il soit, de ces 4 livres, a-t-il pu tirer les récits historiques qui les remplissent et dont il a peut-être écrit lui-même la plus grande partie? Je ferai remarquer ici que les chefs ou princes des Juifs, à l'époque du Second Temple, avaient, comme les rois au temps du premier des scribes ou historiographes, qui étaient chargés d'écrire les annales de l'Empire et de consigner la chronologie des événements. Ainsi, dans les livres des rois, nous trouvons souvent cités les annales ou la chronologie de leur règne. De même, les annales des princes et des pontifes sont citées dans Néhémias, chapitre 12, verset 23, et dans les Maccabées, livre 1er, chapitre 16, verset 14. Il n'y a donc aucun doute que ce livre des annales ne soit celui dont nous parlions tout à l'heure, voyez Esther, chapitre 9, verset 31, où devait se trouver l'édit d'Esther et l'histoire de Mardochée, et qui a péri, comme nous en sommes tombés d'accord, avec Aben Ezra. Et il résulte de là que tous les récits historiques contenus dans les 4 livres de Daniel, d'Esdras, d'Esther et de Néhémias, ont été tirés de ce livre des annales, puisque c'est le seul qui soit cité dans les 4 autres, et le seul aussi qui eut à notre connaissance le caractère et l'autorité d'un document public. Si maintenant on veut avoir la preuve que ces 4 livres n'ont pas été écrits par Esdras ni par Néhémias, il suffit de considérer que dans Néhémias, chapitre 12, versets 9 et 10, la généalogie du grand pontife Jésus-Ga est continuée jusqu'à Jadua, le 6e pontife, celui qui alla au-devant d'Alexandre, à l'époque où l'Empire des Perses était déjà presque entièrement abattu. Voyez Joseph, Antiquité, livre 11, chapitre 8, voyez aussi Philon le Juif, qui au livre des temps appelle Jadua le 6e et dernier pontife qui ait exercé le sacerdoce sous la domination des Perses. De plus, dans ce même chapitre de Néhémias, on lit au verset 22 « Quant aux Lévites qui étaient du temps de Jacib, de Joïada, de Jonathan et de Jadua, les noms des chefs de famille et des prêtres ont été écrits au-dessus du règne de David. » C'est dans les chronologies que ces noms avaient été écrits. Or, je ne pense pas que personne soutienne qu'Ezra ou Néhémias ait vécu assez longtemps pour voir mourir 14 rois des Perses. Cyrus est en effet le premier de ces rois qui ait permis aux Juifs de rebâtir leur temple, et depuis cette époque jusqu'à Darius, 14e et dernier roi des Perses, on compte plus de 230 années. Je regarde donc comme une chose certaine que ces livres ont été écrits longtemps après que Judas Maccabée eut rétabli le culte du temple. Et ce qui me le fait croire, c'est qu'à cette époque, on voit se répandre de faux livres de Daniel, d'Esdras et d'Esther, fabriqués dans des buts perfides par des hommes qui appartenaient sans doute à la secte des Sadducéens, car les pharisiens n'ont jamais, que je sache, reconnu l'autorité de ces faux livres. Et bien qu'on rencontre au livre qu'on nomme le 4e d'Esdras de certaines fables qui se trouvent également dans le Talmud, ce n'est point une raison pour les attribuer aux pharisiens, puisqu'il n'y a personne parmi eux, sauf quelques entêtés absolument stupides, qui ne tombent d'accord que ces fables ont été introduites après coup dans le texte par une moquerie sacrilège, ou, à ce que je crois, avec l'intention de rendre leur tradition ridicule. Une autre raison qu'on peut donner de la publication des livres dont il s'agit à l'époque que j'ai assignée, c'est qu'on avait alors intérêt à montrer au peuple que les prophéties de Daniel s'étaient accomplies, afin de le confirmer de la sorte dans la piété, de relever son courage et de lui donner l'espérance d'une prospérité prochaine au milieu des calamités dont il était accablé. Du reste, bien que ces quatre livres soient si récents et si nouveaux, il s'y trouve néanmoins beaucoup de fautes qui doivent s'expliquer, si je ne me trompe, par l'extrême précipitation des copistes. On y rencontre en effet, comme dans les autres livres de la Bible, outre plusieurs de ces notes marginales dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, un certain nombre de passages qui ne peuvent s'expliquer que par une transcription précipitée, ainsi que je le ferai voir tout à l'heure. Mais je veux d'abord faire remarquer au sujet de ces leçons marginales que si l'on accorde aux pharisiens qu'elles sont aussi anciennes que le texte, il faudra dire alors que ceux qui ont écrit ce texte, en supposant qu'il ait été écrit par plusieurs, ont ajouté ces notes à la marge parce qu'ils ne trouvaient pas les chronologies qu'ils avaient sous les yeux d'une exactitude suffisante et que, tout en y reconnaissant très clairement des fautes, leur respect pour les anciens les a empêchés de les corriger directement. Mais pour ne point revenir ici sur un sujet déjà épuisé, je passe à cette espèce de fautes qui ne sont point indiquées à la marge. Premièrement, il s'en trouve d'abord je ne sais combien dans le chapitre 2 d'Esdras, car au verset 64, la somme totale de ceux qui sont comptés séparément dans le corps du chapitre est fixée à 42 360. Or, en réunissant les sommes partielles, on ne trouve que 29 878, de sorte qu'il faut nécessairement qu'il y ait une erreur, soit dans le total général, soit dans les sommes partielles. Or, il paraît bien que le total général doit être exact, vu que chacun l'avait très certainement retenu de souvenir comme une chose mémorable. Et par conséquent, si l'erreur eût porté sur ce total, elle eût été évidente pour chacun et facilement corrigée. Mais pour les sommes partielles, il en est tout autrement. Cette indication est confirmée par le chapitre 7 de Néhémias qui n'est, comme on le voit au verset 5, qu'une transcription du chapitre d'Esdras dont nous venons de parler, lequel est connu sous le nom d'épître de la généalogie. Dans Néhémias, en effet, le total général est le même que celui d'Esdras, mais les sommes partielles sont notablement différentes, tantôt plus grandes, tantôt plus petites que celles d'Esdras, et elles donnent prises ensemble le chiffre de 31 089. Il résulte évidemment de cette comparaison que les erreurs nombreuses qui se rencontrent dans Esdras et dans Néhémias portent uniquement sur les sommes partielles. Les commentateurs, en présence de contradictions si manifestes, se mettent en devoir de les concilier chacun de son mieux. Mais où les conduit cette idolâtrie des Écritures ? À exposer au mépris les auteurs des livres saints et à les faire passer pour incapables d'écrire un récit et d'exposer les événements avec un peu d'ordre. Ils se vantent d'éclaircir l'Écriture, mais ils l'obscurcissent en effet à ce point que s'il était permis de l'interpréter suivant leur méthode, il n'est point de passage dont l'explication ne devint incertaine. Au surplus, je ne veux pas insister sur ce point, bien convaincu que, si quelque historien voulait suivre dans l'exposition des faits les procédés qu'ils attribuent dévotement aux auteurs de la Bible, il le tournerait en ridicule tous les premiers. Mais je les entends s'écrier que c'est être un blasphémateur que d'imputer une erreur à l'écriture. Quel nom faudra-t-il donc leur donner à eux qui mettent sur son compte toutes les chimères de leur imagination et qui, prostituant la Bible à leurs caprices, transforment les auteurs des livres saints en enfants qui balbutient et embrouillent tout? Ne les entend-on pas nier dans l'explication de la Bible les sens les plus clairs, les plus évidents? Y a-t-il, par exemple, rien de plus intelligible dans l'écriture que ce fait savoir qu'Esdras et ses compagnons, dans l'épître de la généalogie, qui se trouve au chapitre 2 du livre d'Esdras, ont fait, par somme partielle, le compte de tous les Hébreux partis avec eux pour Jérusalem? La preuve en est qu'on y donne le compte, non seulement de ceux qui ont indiqué leur généalogie, mais aussi de ceux qui n'ont pu le faire. N'est-il pas également clair, par le verset 5 du chapitre 7 de Néhémias, que l'auteur de ce livre n'a fait que transcrire cet épître d'Esdras? Par conséquent, ceux qui donnent à ces passages une explication différente nient le vrai sens de l'écriture. Que dis-je? Ils nient l'écriture elle-même. Ridicule piété qui, sous prétexte d'expliquer un passage de la Bible par d'autres passages, subordonne les endroits clairs à ceux qui sont obscurs, les parties vraies et saines à celles qui sont altérées et corrompues. Loin de moi, toutefois, la pensée d'accuser de blasphème ceux qui expliquent l'écriture de la sorte. Leurs intentions sont pures, et je sais que l'erreur est le partage inévitable de l'homme, mais je reviens à mon sujet.